Michel Chailloux, écrivain.
Figaro, c'est un intellectuel, en fait. C'est-à-dire un intellectuel créatif qui se sauve aussi, comme Chérubin, derrière les mots qu'il invente pour se masquer, car on ne sait rien de Figaro, en définitive. On ne sait pas qui il est exactement. Parfois, il est un peu inquiétant par une... Je trouve que le Figaro, par exemple, du Barbier de Séville est plus dans la comédie. Il est moins profond que celui du Mariage de Figaro.
Ça peut pas faire de mal.
Celui du Mariage de Figaro, on a l'impression qu'il a atteint la quarantaine et qu'il est devenu un homme qui va se ranger, comme on dit. Il va se marier avec Suzanne, ainsi de suite. Mais Figaro, on sent que son esprit peut l'emporter ailleurs. C'est-à-dire, je suis pas du tout sûr que Figaro restera avec Suzanne, par exemple.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Ô femme, 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 créature faible et décevante. Nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Le tien est-il donc de tromper ? Après m'avoir obstinément refusé quand je l'empressais devant sa maîtresse, à l'instant qu'elle me donne sa parole, au milieu même de la cérémonie, il riait en lisant le perfide. Et moi comme un benêt. Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie? Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire, tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement, qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez jouter? On vient. C'est elle. Non, ce n'est personne. La nuit est noire en diable et me voilà faisant le saut métier de mari, quoique je ne le sois qu'à moitié. Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits, élevé dans leurs mœurs, je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête. Et partout, je suis repoussé. J'apprends la chimie, la pharmacie, la chirurgie, et tout le crédit d'un grand seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire. L'art d'attrister des bêtes malades, et pour faire un métier contraire, je me jette à corps perdu dans le théâtre. Me fussais-je mis une pierre au cou. Ne pouvant avilir l'esprit, on se venge en le maltraitant. Mes joues creusaient, mon terme était échu. Je voyais de loin arriver l'affreux recors, la plume fichée dans sa perruque. En frémissant, je m'évertue. Il s'élève une question sur la nature des richesses et comme il n'est pas nécessaire de tenir les choses pour en raisonner, n'ayant pas un sou, j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. Sitôt je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château fort à l'entrée duquel je laissais l'espérance et la liberté. Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de 4 jours, si légers sur le mal qu'ils ordonnent, quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. Je lui dirais... que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'au lieu où l'on en gêne le cours, que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. C'était le début de l'un des plus longs monologues de l'histoire du théâtre du XVIIIe siècle. Son auteur, l'illustre et intrigant Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, l'attribue à un personnage qui incarnera les valeurs révolutionnaires, qui deviendra l'un des plus célèbres valets de comédie. J'ai nommé Figaro. Fils d'horloger, écrivain, musicien, homme d'affaires et agent secret, Beaumarchais a mené, comme son héros, une vie tumultueuse tout au long de ce siècle qu'il a vu naître en 1732 et qui s'achève avec lui en 1799. Figure emblématique des Lumières, témoin malheureux de la Révolution française, il connaîtra l'exil et la misère. Beaumarchais signe une œuvre théâtrale engagée où le plus fripon des domestiques triomphe des injustices des maîtres. Le mariage forcé dans le Barbier de Séville, le droit de cuissage dans le Mariage de Figaro et le sort des enfants illégitimes dans la mère coupable. Ce soir, à l'occasion de la création du Barbier de Séville, l'œuvre lyrique de Rossini à l'Opéra de Lille en partenariat avec France Inter, redécouvrons la célèbre trilogie de Beaumarchais qui retrace le roman de la famille Almaviva en 3 folles journées espacées d'une 20aine d'années. « Et pour m'accompagner dans ces scènes savoureuses, j'ai le plaisir d'accueillir deux grands amis, une magnifique comédienne, Yaël Elhadad. Bonsoir.
Bonsoir, Guillaume.
Merci d'être là. Et un inoubliable interprète de Figaro à la Comédie-Française, Laurent Stocker.
Bonsoir, Guillaume.
Bonsoir, Laurent. Merci beaucoup à vous deux d'être là. Commençons par la scène d'ouverture du Barbier de Séville. Le comte et son ancien valet se retrouvent par un heureux hasard sous les fenêtres de la belle Rosine, dont le comte est amoureux et qu'il voudrait sauver d'un mariage imminent avec le vieux Bartolo. Figaro raconte ses déboires passés à une époque où il a voulu faire carrière en tant qu'auteur de théâtre, et on devine que Beaumarchais y règle ses propres comptes avec quelques-uns de ses détracteurs. Acte 1, scène 2, le comte, Figaro. Tu ne dis pas tout. Je me souviens qu'à mon service, tu étais un assez mauvais sujet.
Eh mon Dieu, monseigneur, c'est qu'on veut que le pauvre soit sans défaut.
Paresseux, dérangé.
Aux vertus qu'on exige dans un domestique, votre Excellence connaît-elle beaucoup de maîtres qui fussent dignes d'être valets ?
Pas mal. Et tu t'es retiré en cette ville ?
Non, pas tout de suite.
Un moment. J'ai cru que c'était elle. Dis toujours, je t'entends de reste.
De retour à Madrid, je voulus essayer de nouveau mes talents littéraires. Et le théâtre me parut un champ d'honneur.
Oh, miséricorde.
En vérité, je ne sais comment je n'eus pas le plus grand succès, car j'avais rempli le parterre des plus excellents travailleurs, des mains comme des battoirs. J'avais interdit les gants, les cannes, tout ce qui ne produit que des applaudissements sourds. Et d'honneur, avant la pièce, le café m'avait paru dans les meilleures dispositions pour moi. Mais les efforts de la cabale...
Ah, la cabale. Monsieur l'auteur tombé.
Tout comme un autre, pourquoi pas ? Ils m'ont sifflé, mais si jamais je puis les rassembler...
L'ennui te vengera bien d'eux.
Ah, comme je leur en garde, morbleu.
Tu jures ? Sais-tu qu'on n'a que 24 heures au palais pour maudire ces juges ?
On a 24 ans au théâtre. La vie est trop courte pour user un pareil ressentiment.
Ta joyeuse colère me réjouit. Mais tu ne me dis pas ce qui t'a fait quitter Madrid.
C'est mon bon ange, Excellence, puisque je suis assez heureux pour retrouver mon ancien maître. Voyant à Madrid que la République des Lettres était celle des loups, toujours armés les uns contre les autres, et que, livrés au mépris où ce risible acharnement les conduit, tous les insectes, les moustiques, les cousins, les critiques, les maringouins, les envieux, les feuillistes, les libraires, les censeurs et tout ce qui s'attache à la peau des malheureux gens de lettres, achevaient de déchiqueter et sucer le peu de substance qui leur restait. Fatigués d'écrire, ennuyés de moi, dégoûtés des autres, abîmés de dettes et légers d'argent, à la fin convaincus que l'utile revenu du rasoir est préférable aux vains honneurs de la plume, j'ai quitté Madrid, et mon bagage en sautoir, parcourant philosophiquement les deux Castilles, la Manche, l'Estramadour, la Sierra Morena, l'Andalousie, accueilli dans une ville, emprisonné dans l'autre, et partout supérieur aux événements, loué par ceci, blâmé par cela, aidant au bon temps, supportant le mauvais, me moquant des sots, bravant les méchants, riant de ma misère, et faisant la barbe à tout le monde, vous me voyez enfin établi dans Séville, et prêt à servir de nouveau votre Excellence en tout ce qui lui plaira de m'ordonner.
Qui t'a donné une philosophie aussi gaie ?
L'habitude du malheur. Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. Que regardez-vous donc de ce côté ?
Sauvons-nous.
Pourquoi ?
Viens donc, malheureux, tu me perds. Découvrons la belle ingénue qui se joue de son vieux prétendant dans une scène du balcon revisité. Tandis que le comte et Figaro se cachent, Rosine ouvre sa fenêtre et, sous la surveillance du vieux Bartolo, fait mine de perdre le texte d'une chanson intitulée « La précaution inutile », qui est le sous-titre du Barbier de Séville, en référence à une pièce de Scarron dont s'est inspiré Beaumarchais. La feuille est en réalité une lettre à l'intention du comte qu'elle connaît sous le nom de Lindor. Sous les conseils de Figaro, déguisé en soldat ivre, le comte pourra bientôt approcher sa belle et lui dévoiler ses sentiments. Mais pour l'heure, Bartolo, fou de jalousie, s'apprête à cloîtrer sa promise. Déterminé à ne pas se laisser faire, Rosine laisse éclater un tempérament bien trempé. Acte 1, scène 3, Laurent Stocker dans le rôle de Bartolo, et Yaël Elhadad dans le rôle de Rosine.
Comme le grand air fait plaisir à respirer, cette jalousie s'ouvre si rarement.
Quel papier tenez-vous là ?
Ce sont des couplets de la précaution inutile que mon maître à chanter m'a donné hier.
Qu'est-ce que la précaution inutile ?
C'est une comédie nouvelle.
Quelques drames encore, quelques sottises d'un nouveau genre.
Je n'en sais rien.
Les journaux et l'autorité nous en feront raison. Siècle barbare.
Vous injuriez toujours notre pauvre siècle.
Pardon de la liberté, qu'a-t-il produit pour qu'on le loue ? Sottise de toute espèce, la liberté de penser, l'attraction, l'électricité, le tolérantisme, l'inoculation, le quinquennat, l'encyclopédie et les drames.
Le papier lui échappe et tombe dans la rue.
Ah, ma chanson est tombée en vous écoutant. Courez, courez donc, monsieur, ma chanson, elle sera perdue.
Que diable aussi, l'on tient ce qu'on tient.
Bartolo quitte le balcon. Rosine regarde en dedans et fait signe dans la rue.
Tss, tss.
Le comte paraît.
Ramassez vite et sauvez-vous.
Le comte ne fait qu'un saut, ramasse le papier et rentre.
Où donc est-il ? Je ne vois rien.
Sous le balcon, au pied du mur.
Vous me donnez là une jolie commission. Il est donc passé quelqu'un ?
Je n'ai vu personne.
Et moi qui ai la bonté de chercher. Bartolo, vous n'êtes qu'un sot, mon ami. Ceci doit vous apprendre à ne jamais ouvrir de jalousie sur la rue.
Il rentre.
Mon excuse est dans mon malheur. Seul, enfermé, en butte à la persécution d'un homme odieux. Est-ce un crime de tenter à sortir d'esclavage ?
Rentrez, signora. C'est ma faute si vous avez perdu votre chanson. Mais ce malheur ne vous arrivera plus, je vous jure.
Il ferme la jalousie à clé. Faisons la connaissance d'un autre maître chanteur. À l'acte suivant, Bartolo reçoit la visite de Don Basile, le professeur de chant de Rosine, venu l'avertir de la présence en ville du comte Almaviva, connu par le passé pour ses sentiments pour Rosine. Le maître à chanter lui conseille alors d'utiliser une arme redoutable pour éloigner son rival, la calomnie. Cette scène a inspiré à Rossini l'un des airs les plus célèbres de son opéra, dont Stendhal rend compte en ses mots dans sa vie de Rossini. La pièce fut donnée le 26 décembre 1816. Les Romains trouvèrent le commencement de l'opéra bien ennuyeux. Seul l'air de la Calunnia fut jugé magnifique et original. Acte 2, scène 7, Bartolo, Don Basile.
Ah, Don Basile, vous veniez donner à Rosine sa leçon de musique ?
C'est ce qui presse le moins. Apprenez une nouvelle assez fâcheuse.
Pour vous ?
Non, pour vous. Le comte Almaviva est en cette ville.
Parlez bas. Celui qui faisait chercher Rosine dans tout Madrid ?
Il loge à la grande place et sort tous les jours déguisé.
Il n'en faut point douter, cela me regarde. Et que faire ?
Si c'est un particulier, on viendrait à bout de l'écarter.
Qui, en s'embusquant le soir, armé, cuirassé ?
Bonne idée, ou se compromettre. Oh, susciter une méchante affaire à la bonne heure. Et pendant la fermentation, calomnier, à dire d'experts, concedo.
Singulier moyen de se défaire d'un homme.
La calomnie, monsieur. Vous ne savez guère ce que vous dédaignez. J'ai vu les plus honnêtes gens près d'en être accablés. Croyez qu'il n'y a pas de plate méchanceté, pas d'horreur, pas de conte absurde qu'on ne fasse adopter aux oisifs d'une grande ville en s'y prenant bien. Nous avons ici des gens d'une adresse. D'abord un bruit léger, rasant le sol comme hirondelle avant l'orage, pianissimo murmure et file, et sème en courant le trait empoisonné. Telle bouche le recueille, et piano piano vous le glisse en l'oreille adroitement. Le mal est fait, il germe, il rampe, il chemine, et rinforzando de bouche en bouche il va le diable. Puis tout à coup, ne sait comment, vous voyez calomnie se dresser, siffler, s'enfler, grandir à vue d'œil. Elle s'élance, elle étend son vol, tourbillonne, enveloppe, arrache, entraîne, éclate, étonne, et devient, grâce au ciel, un cri général, un crescendo public, un chorus universel de haine et de proscription. Qui diable y résisterait ?
Mais quel radotage me faites-vous donc là, Basile ? Et quel rapport ce piano crescendo peut-il avoir à ma situation ?
Comment quel rapport ? C'est ce qu'on fait partout pour écarter son ennemi. Il faut le faire ici pour empêcher le vôtre d'approcher.
D'approcher ? Je prétends bien épouser Rosine avant qu'elle apprenne seulement que ce comte existe.
En ce cas, vous n'avez pas un instant à perdre.
Et à qui tient-il, Basile ? Je vous ai chargé de tous les détails de cette affaire.
Oui, mais vous avez lésiné sur les frais. et dans l'harmonie du bon ordre. Un mariage inégal, un jugement inique, un passe-droit évident sont des dissonances qu'on doit toujours préparer et sauver par l'accord parfait de l'or.
Il faut en passer par où vous voulez. Mais finissons.
Cela s'appelle parler. Demain, tout sera terminé.
Et voici à présent un cours très particulier. Afin d'approcher Rosine, le comte donc se fait désormais passer pour un élève de Basile que celui-ci, souffrant, aurait envoyé chez Bartolo pour y donner sa leçon de chant à la jeune femme. Le stratagème emprunté aux comédies de Molière fonctionne à merveille. Très nombreux dans la pièce, les passages chantés témoignent du projet initial de Beaumarchais d'écrire un opéra. Mais celui-ci dénonce dans sa préface la lourdeur de la musique française. Acte 3, scène 4, Rosine, Bartolo, le comte.
Tout ce que vous direz est inutile, monsieur. J'ai pris mon parti, je ne veux plus entendre parler de musique.
Écoute donc, mon enfant. C'est le seigneur Alonso, l'élève et l'ami de Don Basile, choisi par lui pour être un de nos témoins. La musique te calmera, je t'assure.
Oh, pour cela, vous pouvez vous en détacher. Si je chante ce soir, où donc est-il, ce maître que vous craignez de renvoyer? Je vais en deux mots lui donner son compte et celui de Basile. Ah !
Elle aperçoit son amant, elle pousse un cri.
Qu'avez-vous?
Ah, mon Dieu, monsieur. Ah, mon Dieu, monsieur.
Elle se trouve encore mal. Seigneur Alonso.
Non, je ne me trouve pas mal, mais c'est qu'en me tournant... Ah !
Le pied vous a tourné, madame.
Ah, oui, le pied m'a tourné. Je me suis fait un mal horrible.
Je m'en suis bien aperçu.
Le coup m'a porté au cœur.
Un siège, et pas un fauteuil ici.
Bartolo sort chercher un fauteuil. Ah, Rosine.
Quelle imprudence.
J'ai mille choses essentielles à vous dire.
Il ne nous quittera pas.
Figaro va venir nous aider.
Tiens, mignonne, assieds-toi. Il n'y a pas d'apparence bachelier qu'elle prenne de leçons ce soir. Ce sera pour un autre jour. Adieu.
Non, attendez, ma douleur est un peu apaisée. Je sens que j'ai eu tort avec vous, monsieur, mon futur époux. Je veux vous imiter en réparant sur le champ...
Oh, le bon petit naturel de femme. Mais après une pareille émotion, mon enfant, je ne souffrirai pas que tu fasses le moindre effort. Adieu, adieu, bachelier.
Un moment, de grâce. Je croirais, monsieur, que vous n'aimez pas à m'obliger si vous m'empêchez de vous prouver mes regrets en prenant ma leçon.
Le comte à part à Bartolo. Ne la contrariez pas si vous m'en croyez.
Voilà qui est fini, mon amoureuse. Je suis si loin de chercher à te déplaire que je veux rester là tout le temps que tu vas étudier.
Non, monsieur, je sais que la musique n'a nul attrait pour vous.
Je t'assure que ce soir, elle m'enchantera.
Je suis au supplice.
Le comte prenant un papier de musique sur le pupitre. Est-ce là ce que vous voulez chanter, madame?
Oui, c'est un morceau très agréable de la précaution inutile.
Toujours la précaution inutile?
C'est ce qu'il y a de plus nouveau aujourd'hui. C'est une image du printemps, d'un genre assez vif. Si madame veut l'essayer...
Avec un grand plaisir. Un tableau du printemps me ravit. C'est la jeunesse de la nature. Au sortir de l'hiver, il semble que le cœur acquiert un plus haut degré de sensibilité. Comme un esclave enfermé depuis longtemps, goûte avec plus de plaisir le charme de la liberté qui vient de lui être offerte.
Toujours des idées romanesques en tête.
Bartolo va s'asseoir dans le fauteuil qu'a occupé Rosine. Rosine chante.
Quand dans la plaine l'amour amène le printemps, si chéri des amants, tout reprend l'être, son feu pénètre dans les fleurs et dans les jeunes cœurs, tout fermente, tout augmente, et l'indore enflammé ne songe guère qu'au bonheur d'être aimé de sa bergère qui va chantant où son amant l'attend. Ses charmes naissants, ses 15 ou 16 ans, tout l'excite, tout l'agite, elle s'avance, l'indore s'élance, il vient de l'embrasser. Si quelque jaloux trouble un bien si doux, nos amants d'accord ont un soin extrême de voiler leur transport. Mais quand on s'aime, la gêne ajoute encore au plaisir même.
En l'écoutant, Bartolo s'est assoupi. Le comte, pendant la petite reprise, se hasarde à prendre une main qu'il couvre de baisers. En vérité, c'est un morceau charmant, et madame l'exécute avec une intelligence.
Vous me flattez, Seigneur. La gloire est tout entière au maître.
Moi, je crois que j'ai un peu dormi pendant le morceau charmant. J'ai mes malades. Je vas, je viens, je toupie, et sitôt que je m'assieds, mes pauvres jambes.
Figaro ne vient pas.
Filons le temps.
Mais bachelier, je l'ai déjà dit à ce vieux Basile, est-ce qu'il n'y aura pas moyen de lui faire étudier des choses plus gaies que tous ces grandes arias qui vont en haut, en A, en roulant, qui me semblent autant d'enterrements. Là, de ces petits airs qu'on chantait dans ma jeunesse et que chacun retenait facilement. J'en savais autrefois, par exemple. Veux-tu, ma rosinette, faire emplette du roi des maris? Il y a fanchonnette dans la chanson, mais j'y ai substitué rosinette pour la lui rendre plus agréable et la faire cadrer aux circonstances. Fort bien, pas vrai?
Oui, tout au mieux.
Et voici le dénouement heureux de l'intrigue du barbier de Séville. Dans une scène fameuse où Figaro propose à Bartolo de lui faire la barbe, le valet s'empare de la clé de la fenêtre de Rosine. Mais Bartolo fait croire à Rosine que le dénommé Lindor la courtise pour la vendre au comte Almaviva, car elle ne sait pas que c'est la véritable identité de son amoureux. Par dépit, elle accepte alors de se donner à Bartolo. Mais Figaro et le comte s'introduisent chez Rosine et triomphent de cet ultime piège. La nuit même, en présence d'un notaire, les jeunes amants devancent les plans de Bartolo et signent leur contrat de mariage à la barbe du vieux barbon. À Figaro revient le mot de la fin qui clôt le quatrième et dernier acte.
Soyons vrais, docteur. Quand la jeunesse et l'amour sont d'accord pour tromper un vieillard, tout ce qu'il fait pour l'empêcher peut bien s'appeler à bon droit la précaution inutile.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Il y a les insolences de Beaumarchais.
Jean Villard.
Il y a, mais il y en a bien d'autres dans Voltaire et dans tous les encyclopédistes, et même, je crois, de plus violentes. Mais c'est le seul au XVIIIe siècle, Beaumarchais, qui ait pu faire une pièce valable sur un sujet assez frivole, disons-le. Le droit d'un seigneur à poursuivre toutes les femmes du comté n'est pas, que je sache, un sujet révolutionnaire. Mais, évidemment, il y a le personnage de Figaro, et plus que les mots, peut-être, que peut dire Figaro, ou Suzanne, ou Antonio le jardinier, leur attitude vis-à-vis de ceux qui sont leurs patrons. Il y a la insolence, il y a la ironie constante, il y a la raillerie. Mais que le mariage de Figaro soit une pièce révolutionnaire annonçant notre révolution de 89, non. Cela reste une pièce très belle, très difficile.
Évoquons à présent l'autre grande comédie de Beaumarchais qui lui a valu une renommée mondiale, Le mariage de Figaro. L'intrigue se situe quelques années après celle du barbier de Séville. Rosine est devenue la comtesse Almaviva, délaissée par son mari. Tandis que Figaro s'apprête le jour même à épouser Suzanne, la femme de chambre de la comtesse. Mais le comte revendique son droit de cuissage sur Suzanne. Voici la scène d'ouverture de cette comédie qui a fait scandale à sa création en 1784 par l'audace de ses valets. La pièce est refusée en Allemagne, mais Mozart, avec son librettiste Da Ponte, en adoucit l'intrigue politique au profit de l'intrigue libertine. Son célèbre opéra « Les noces de Figaro » verra le jour à peine 2 ans plus tard, en 1786. Acte 1, scène 1, Figaro, Suzanne.
« 19 pieds sur 26. »«
Tiens, Figaro, voilà mon petit chapeau. Le trouves-tu mieux ainsi ?»«
Sans comparaison, ma charmante. Oh, que ce joli bouquet virginal, élevé sur la tête d'une belle fille et doux, le matin des noces, à l'œil amoureux d'un époux. »«
Que mesures-tu donc là, mon fils ?»«
Je regarde, ma petite Suzanne, si ce beau lit que Monseigneur nous donne aura bonne grâce ici. »«
Dans cette chambre ?»«
Il nous la cède. »«
Et moi, je n'en veux point. »
Pourquoi ?
Je n'en veux point.
Mais encore ?
Elle me déplaît.
On dit une raison.
Si je n'en veux pas dire.
Oh, quand elles sont sûres de nous.
Prouver que j'ai raison serait accorder que je puisse avoir tort. Es-tu mon serviteur ou non ?
Tu prends de l'humeur contre la chambre du château la plus commode et qui tient le milieu des deux appartements. La nuit, si madame est incommodée, elle sonnera de son côté. Zeste, en 2 pas tu es chez elle. Monseigneur veut-il quelque chose ? Il n'a qu'à teinter du sien. Crac, en 3 sauts me voilà rendu.
Fort bien. Mais quand il aura teinté le matin pour te donner quelques bonnes et longues commissions, zeste, en 2 pas, il est à ma porte et craque en 3 sauts.
Qu'entendez-vous par ces paroles ?
Il faudrait m'écouter tranquillement.
Et qu'est-ce qu'il y a ? Bon Dieu !
Il y a, mon ami, que là de courtiser les beautés des environs, monsieur le comte Almaviva veut rentrer au château, mais non pas chez sa femme. C'est sur la tienne, entends-tu, qu'il a jeté ses vues, auxquelles il espère que ce logement ne nuira pas. Et c'est ce que le loyal Basile, honnête agent de ses plaisirs et mon noble maître à chanter, me répète chaque jour en me donnant le son.
Basile ? Oh mon mignon ! Si jamais volé de bois vert, appliqué sur une échine, a dûment redressé la moelle épinière à quelqu'un...
Tu croyais, bon garçon, que cette dot qu'on me donne était pour les beaux yeux de ton mérite ?
J'avais assez fait pour l'espérer.
Que les gens d'esprit sont bêtes.
On le dit.
Mais c'est qu'on ne veut pas le croire.
On a tort.
Apprends qu'il la destine à obtenir de moi secrètement certains quarts d'heure seul à seul qu'un ancien droit du Seigneur... Tu sais s'il était triste.
Je le sais tellement que si monsieur le comte en se mariant n'eût pas aboli ce droit honteux, jamais je ne t'eusse épousé dans ses domaines.
Eh bien, s'il l'a détruit, il s'en repent. Et c'est de ta fiancée qu'il veut le racheter en secret aujourd'hui.
Ma tête s'amollit de surprise. Et mon front fertilisé...
Ne le frottons pas.
Quel danger.
S'il y venait un petit bouton, des gens superstitieux...
Tu ris, friponne. Ah, s'il y avait moyen d'attraper ce grand trompeur, de le faire donner dans un bon piège et d'empocher son or...
De l'intrigue et de l'argent, te voilà dans ta sphère.
Ce n'est pas la honte qui me retient.
La crainte ?
Ce n'est rien d'entreprendre une chose dangereuse, mais d'échapper au péril en la menant à bien. Car d'entrer chez quelqu'un la nuit, de lui souffler sa femme et d'y recevoir 100 coups de fouet pour la peine, il n'est rien plus aisé. 1000 sauts coquins l'ont fait, mais...
On sonne à l'intérieur.
Voilà madame éveillée. Elle m'a bien recommandé d'être la première à lui parler le matin de mes noces.
Y a-t-il encore quelque chose là-dessous ?
Le berger dit que cela porte bonheur aux épouses délaissées. Adieu, mon petit Figaro. Rêve à notre affaire.
Pour m'ouvrir l'esprit, donne un petit baiser.
À mon amant aujourd'hui ? Je t'en souhaite. Et qu'en dirait demain mon mari ?
Figaro l'embrasse.
Eh bien, eh bien.
Est-ce que tu n'as pas d'idée de mon amour ?
Quand cesserez-vous, importun, de m'en parler du matin au soir ?
Quand je pourrai te le prouver, du soir jusqu'au matin.
Avançons dans l'intrigue et assistons à une scène de pure comédie. Le mariage de Figaro regorge de péripéties, rebondissements et autres coups de théâtre qui ont fait l'immense succès de la pièce. À l'acte 1... Chérubin, le petit page secrètement amoureux de la comtesse, se jette derrière un fauteuil pour se cacher du comte. À l'acte 2, le voici dans la chambre de la comtesse où il vient lui rendre un ruban qu'il lui a dérobé et lui dévoile timidement ses sentiments. Il n'a que le temps de se réfugier dans un petit cabinet attenant lorsque le comte fait une entrée tonitruante. Acte 2, scènes 12 et 13, le comte et la comtesse. Vous n'êtes pas dans l'usage de vous enfermer.
Je chiffonnais. Oui, je chiffonnais avec Suzanne. Elle est passée un moment chez elle.
Vous avez l'air et le ton bien altérés.
Oh, cela n'est pas étonnant. Pas étonnant du tout, je vous assure. Nous parlions de vous. Elle est passée, comme je vous dis.
Vous parlez de moi ? Je suis ramené par l'inquiétude. En montant à cheval, un billet qu'on m'a remis, mais auquel je n'ajoute aucune foi, m'a pourtant agité.
Comment, monsieur ? Quel billet ?
Il faut avouer, madame, que vous et moi sommes entourés d'êtres bien méchants. On me donne avis que dans la journée, quelqu'un que je crois absent doit chercher à vous entretenir.
Quel que soit cet audacieux, il faudra qu'il pénètre ici, car mon projet est de ne pas quitter ma chambre de tout le jour.
Ce soir, pour la noce de Suzanne.
Pour rien au monde. Je suis très incommodée.
Heureusement, le docteur est ici. Quel bruit entends-je ?
Du bruit ?
On a fait tomber un meuble.
Je n'ai rien entendu pour moi.
Il faut que vous soyez furieusement préoccupée.
Préoccupée de quoi ?
Il y a quelqu'un dans ce cabinet, madame.
Hé ! Qui voulez-vous qu'il y ait, monsieur ?
C'est moi qui vous le demande. J'arrive.
Eh mais Suzanne, apparemment, qui range.
Vous avez dit qu'elle était passée chez elle.
Passée ou entrée, là, je ne sais lequel.
Si c'est Suzanne, d'où vient le trouble où je vous vois ?
Du trouble pour ma camariste.
Pour votre camariste ? Je ne sais, mais pour du trouble, assurément.
Assurément, monsieur, cette fille vous trouble et vous occupe beaucoup plus que moi.
Elle m'occupe à tel point, madame, que je veux la voir à l'instant.
Je crois en effet que vous le voulez souvent, mais voilà bien les soupçons les moins fondés.
Ils en seront plus aisés à détruire. Sortez, Suzon, je vous l'ordonne.
Elle est presque nue, monsieur. Vient-on troubler ainsi des femmes dans leur retraite ? Elle essayait des hardes que je lui donne en la mariant. Elle s'est enfuie quand elle vous a entendu.
Si elle craint tant de se montrer, au moins elle peut parler. Répondez-moi, Suzanne. Êtes-vous dans ce cabinet ?
Suzon, je vous défends de répondre. On n'a jamais poussé si loin la tyrannie.
Oh bien, puisqu'elle ne parle pas. Vêtue ou non, je la verrai.
Partout ailleurs, je ne puis l'empêcher, mais j'espère aussi que chez moi...
Et moi, j'espère savoir dans un moment quelle est cette Suzanne mystérieuse. Vous demandez la clé, serait, je le vois, inutile, mais il est un moyen sûr de jeter en dedans cette légère porte. Oh là, quelqu'un !
Attirer vos gens et faire un scandale public d'un soupçon qui nous rendrait la fable du château ?
Fort bien, madame. En effet, j'y suffirai. Je vais à l'instant prendre chez moi ce qu'il faut. Mais pour que tout reste au même état, voudrez-vous bien m'accompagner sans scandale et sans bruit, puisqu'il vous déplaît tant ? Une chose aussi simple, apparemment, ne me sera pas refusée.
Eh, monsieur, qui songe à vous contrarier ?
Ah, j'oubliais, la porte qui va chez vos femmes. Il faut que je la ferme aussi, pour que vous soyez pleinement justifiée.
Au ciel, étourderie funeste.
Maintenant que cette chambre est close, acceptez mon bras, je vous prie. Et quant à la Suzanne du cabinet, il faudra qu'elle ait la bonté de m'attendre. Et le moindre mal qui puisse lui arriver à mon retour...
En vérité, monsieur, voilà bien la plus odieuse aventure.
Poursuivons dans l'intrigue et découvrons ce que pense Figaro des Anglais en particulier et de la politique en général. Le comte envisage de partir pour Londres et d'y emmener avec lui Figaro. Dans la scène suivante, il sonde les ambitions de son valet afin de mesurer son attachement à Suzanne. À mots couverts, le maître cherche à savoir si Suzanne a révélé à son futur époux les véritables intentions du comte, exercer son droit de seigneur contre une belle dot. De son côté, Figaro est engagé dans une autre intrigue sentimentale. Marceline, une vieille amie de la comtesse, veut lui intenter un procès pour le non-respect d'une promesse de mariage. Tandis que le comte courtise la jeune Suzanne, Figaro se verrait contraint d'épouser une marâtre. Acte 3, scène 5, le comte Figaro. Je voudrais bien savoir quelle affaire peut arrêter monsieur quand je le fais appeler.
Je m'étais sali sur ses couches en tombant. Je me changeais.
Faut-il une heure ? Les domestiques ici sont plus longs à s'habiller que les maîtres.
C'est qu'ils n'ont pas de valet pour les y aider.
Laissons cela. J'avais quelque envie de t'emmener à Londres, courrier de dépêche. Mais toute réflexion faite...
Monseigneur a changé d'avis ?
Premièrement, tu ne sais pas l'anglais.
Je sais goddam.
Je n'entends pas.
Je dis que je sais goddam.
Eh bien ?
Diable, c'est une belle langue que l'anglais. Il en faut peu pour aller loin. Avec goddam en Angleterre, on ne manque de rien nulle part. Voulez-vous tâter d'un bon poulet gras ? Entrez dans une taverne et faites seulement ce geste au garçon.
Il tourne la broche.
Goddam ! On vous apporte un pied de bœuf salé sans pain. C'est admirable. Aimez-vous à boire un coup d'excellent Bourgogne ou de Clairet ? Rien que celui-ci.
Il débouche une bouteille.
Goddam ! On vous sert un pot de bière en bel étain, la mousse au bord. Quelle satisfaction ! Rencontrez-vous une de ces jolies personnes qui vont trot en menu, les yeux baissés, coudes en arrière et tortillant un peu des hanches. Mettez mignardement tous les doigts unis sur la bouche. Ah ! Goddam ! Elle vous sangle un soufflet de crocheteur. Preuve qu'elle entend. Les Anglais, à la vérité, ajoutent par-ci par-là quelques autres mots en conversant. Mais il est bien aisé de voir que « goddam » est le fond de la langue. Et si Monseigneur n'a pas d'autre motif de me laisser en Espagne...
Il veut venir à Londres, elle n'a pas parlé.
Il croit que je ne sais rien, travaillons-le un peu dans son genre.
Quel motif avait la comtesse pour me jouer un pareil tour ce matin ?
Ma foi, Monseigneur, vous le savez mieux que moi.
Je la préviens sur tout et la comble de présents.
Vous lui donnez, mais vous êtes infidèle. C'est ton gré du superflu à qui nous prive du nécessaire.
Autrefois, tu me disais tout.
Et maintenant, je ne vous cache rien.
Combien la comtesse t'a-t-elle donné pour cette belle association ?
Combien me donnez-vous pour la tirer des mains du docteur ? Tenez, Monseigneur, n'humilions pas l'homme qui nous sert bien. Crainte d'en faire un mauvais valet.
Pourquoi faut-il qu'il y ait toujours du louche en ce que tu fais ?
C'est qu'on en voit partout quand on y cherche des torts.
Une réputation détestable.
Et si je vaux mieux qu'elle ? Y a-t-il beaucoup de seigneurs qui puissent en dire autant ?
100 fois je t'ai vu marcher à la fortune et jamais aller droit.
Comment voulez-vous ? La foule est là, chacun veut courir. On se presse, on pousse, on coudoie, on renverse. Arrive qui peut, le reste est écrasé. Aussi c'est fait. Pour moi, j'y renonce.
À la fortune ? Voici du neuf.
À mon tour maintenant. Votre Excellence m'a gratifié de la conciergerie du château. C'est un fort joli sort. À la vérité, je ne serai pas le courtier étrenné des nouvelles intéressantes. Mais en revanche, heureux avec ma femme, au fond de l'Andalousie...
Qui t'empêcherait de l'emmener à Londres ?
Oh, il faudrait la quitter si souvent que j'aurai bientôt du mariage par-dessus la tête.
Avec du caractère et de l'esprit, tu pourrais un jour t'avancer dans les bureaux.
De l'esprit pour s'avancer ? Monseigneur serait du mien. Médiocre et rampant, et l'on arrive à tout.
Il ne faudrait qu'étudier un peu sous moi la politique.
Je la sais.
Comme l'anglais, le fond de la langue.
Oui, s'il y avait de quoi se vanter. Mais feindre d'ignorer ce qu'on sait, de savoir tout ce qu'on ignore, d'entendre ce qu'on ne comprend pas, de ne point ouïr ce qu'on entend, surtout de pouvoir au-delà de ses forces, avoir souvent pour grand secret de cacher qu'il n'y en a point, s'enfermer pour tailler des plumes et paraître profond quand on est, comme on dit, que vide et creux, jouer bien ou mal un personnage, répandre des espions et pensionner des traîtres, amollir des cachets, intercepter des lettres, et tâcher d'anoblir la pauvreté des moyens par l'importance des objets, voilà toute la politique, où je meurs.
Eh, c'est l'intrigue que tu définis.
La politique, l'intrigue, volontiers, mais comme je les crois un peu germaines, en face qui voudra. J'aime mieux mamie au guet, comme dit la chanson du bon roi.
Il veut rester. J'entends, Suzanne m'a trahi.
Je l'enfile et le paye en sa monnaie.
Ainsi, tu espères gagner ton procès contre Marceline.
Me feriez-vous un crime de refuser une vieille fille quand votre Excellence se permet de nous souffler toutes les jeunes ?
Au tribunal, le magistrat s'oublie et ne voit plus que l'ordonnance.
Indulgent au grand, dur au petit.
Je vois qu'on lui a tout dit. Il épousera la duègne.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Évoquons pour conclure cette émission la troisième et dernière pièce de la trilogie de Beaumarchais, La mère coupable, créée en 1792.
L'intrigue de cet ultime épisode du roman des Almaviva se déroule 20 ans après celle du mariage de Figaro. Beaumarchais y renoue avec l'inspiration de ses débuts, son goût pour le drame, que Diderot définit comme un intermédiaire sérieux entre la comédie et la tragédie. Comme Marceline, contrainte par le passé d'abandonner un enfant bâtard, la comtesse révèle dans cette pièce un douloureux secret. Léon, le cadet de la famille, est un enfant illégitime, né de ses amours clandestines avec un certain chérubin, devenu soldat et mort prématurément à la guerre. Le comte fou de jalousie refuse le mariage de Léon avec sa pupille, Florestine, qu'il promet avec toute sa fortune à un intrigant du nom de Bergars. Mais grâce à la ruse de Figaro, les mensonges seront démasqués et Léon reconnu comme fils. Dans la scène suivante, la comtesse qui vient d'avouer sa faute ne souhaite que la mort, mais le comte bouleversé regrette ses excès de colère. Acte 4, scènes 17 et 18, Léon, la comtesse et le comte. Lui tenant le flacon sous le nez.
Si l'on pouvait la faire respirer. Ô Dieu, rends-moi ma malheureuse mère. La voici qui revient.
Ah, qu'on a de peine à mourir.
Non, maman, vous ne mourrez pas.
Ô ciel, entre mes juges, entre mon époux et mon fils, tout est connu et criminel envers tous deux. Vengez-vous l'un et l'autre. Il n'est plus de pardon pour moi. Mère coupable, épouse indigne, un instant nous a tous perdus. J'ai mis l'horreur dans ma famille, j'allumais la guerre intestine entre le père et les enfants. Ciel juste, il fallait bien que ce crime fût découvert. Puisse ma mort expier mon forfait.
Non, revenez à vous. Votre douleur a déchiré mon âme. Asseyons-la, Léon, mon fils.
Dieu de bonté, fais que je meure.
Non, maman, vous ne mourrez pas. Et nous réparerons nos torts. Monsieur, vous que je n'outragerai plus en vous donnant un autre nom, reprenez vos titres, vos biens. Je n'y avais nul droit, hélas, je l'ignorais. Mais par pitié, n'écrasez point d'un déshonneur public cet infortuné qui fut vôtre. Une erreur expiée par 20 années de larmes est-elle encore un crime alors qu'on fait justice? Ma mère et moi, nous nous bannissons de chez vous.
Jamais. Vous n'en sortirez point.
Un couvent sera sa retraite. Et moi, sous mon nom de Léon, sous le simple habit d'un soldat, je défendrai la liberté de notre nouvelle patrie. Inconnue, je mourrai pour elle, ou je la servirai en zélé citoyen.
Léon, mon cher enfant, ton courage me rend la vie. Je puis encore la supporter, puisque mon fils a la vertu de ne pas détester sa mère. Cette fierté dans le malheur sera ton noble patrimoine. Il m'épousa sans bien, n'exigeant rien de lui. Le travail de mes mains soutiendra ma faible existence, et toi, tu serviras l'État.
Non, Rosine, jamais. C'est moi qui suis le vrai coupable. De combien de vertus je privais ma triste vieillesse.
Jean-Pierre Vincent.
C'est quand même une pièce qui ne peut pas s'empêcher de faire pointer dans le drame sa gaieté, ce qu'il appelait sa gaieté, sa force de vie. De temps en temps, dans La mère coupable, il entrouvre la porte et il dit, vous vous souvenez, je suis quand même ce Beaumarchais qui a écrit Le Barbier de Séville et Le mariage de Figaro. Mais il avoue aussi qu'il est fatigué de cela. Donc, toute la vie de Beaumarchais a été fondée sur un rêve d'écrire du théâtre sérieux. Il était plus doué pour écrire du théâtre comique. Lui aussi, c'est peut-être destin français.
Et enfin l'épilogue, tandis que s'annonce le dénouement final de l'acte 5, laissons à nouveau à Figaro le mot de la fin. Pour clore cet émouvant acte 4, le valet rend hommage, pour une fois, à son maître et complice de toujours.
Vous l'entendez, madame ? Le voilà dans son caractère. Et c'est mon maître que j'entends. Ah ! Je l'ai toujours dit de lui. La colère, chez les bons cœurs, n'est qu'un besoin pressant de pardonner.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission réalisée par Xavier Pestugia avec Jean-Louis Deloncle à la technique a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaki et Irène Menahem. Merci à vous tous et merci à Yaël Eladad et à Laurent Stocker d'avoir été avec nous ce soir.